Bonjour Yaël Braun-Pivet.
Bonjour.
Richard Ferrand est depuis hier le nouveau président de l'Assemblée nationale. Vous avez été candidate à ce poste pendant quelques heures, jeudi dernier. Vous disiez alors que l'élection de Richard Ferrand ne serait pas, je vous cite, à la hauteur de notre mouvement et de l'aspiration des Français au renouvellement. Quelques heures plus tard, vous retiriez votre candidature et vous souteniez Richard Ferrand. Ce changement de pied vous a valu des critiques et des railleries, vous le savez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Est-ce qu'on vous a fait comprendre que cette candidature pouvait vous attirer des ennuis?
Alors, je me suis portée candidate parce que j'estimais que ce qui n'était pas à la hauteur de notre mouvement, c'était une élection à un candidat. Donc, j'ai souhaité être candidate pour incarner le renouveau, la présence de la société civile à l'Assemblée et notre mouvement En Marche. J'ai pu constater que au fil des jours, il y a eu plusieurs candidatures et que ma candidature devenait un facteur de division de notre groupe et qu'également elle devenait une opposition en fait de personnes. Et moi je ne suis ni dans l'ambition personnelle ni dans le calcul politique, et j'ai estimé compte tenu du projet que je portais, il était préférable que je retire ma candidature, et c'est ce que j'ai fait au profit de Richard Ferrand qui portait exactement le même projet que moi pour notre Assemblée nationale.
Personne ne vous a conseillé, personne ne vous a dit n'y va pas, ça n'est pas une bonne idée?
C'est une décision que j'ai prise en toute conscience pour les raisons que je viens de vous exposer.
Richard Ferrand a recueilli 254 voix alors que le groupe La République En Marche compte 312 députés. Fin juin 2017, François Drugy, son prédécesseur, l'avait emporté avec 353 voix, autrement dit une centaine de plus. Est-ce que finalement vous n'aviez pas raison quand vous estimiez que Richard Ferrand n'incarnait pas le renouvellement?
Alors Richard Ferrand a été élu dès le premier tour hier. Vous aurez noté que l'ensemble des suffrages ne couvre absolument pas l'ensemble des membres de notre Assemblée. Donc les chiffres que vous donnez ne sont absolument pas interprétables tels que vous le faisiez. Et je pense que c'est une très belle élection. Et Richard Ferrand est tout à fait en mesure de porter le projet de rénovation de notre Assemblée que nous souhaitons tous.
Vous avez présidé, Yaël Braun-Pivet, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla. La commission a volé en éclats en raison des désaccords entre la majorité et l'opposition sur le choix des personnes qui devaient être auditionnées. La commission d'enquête du Sénat, elle, poursuit son travail. Elle auditionnera Alexandre Benalla le 19 septembre prochain. Quel regard vous portez sur le travail de la commission d'enquête du Sénat?
Alors, déjà, par principe, en tant que présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, je me garde bien de porter un jugement sur le travail de mon collègue Philippe Bas au Sénat. Je constate néanmoins qu'à l'Assemblée nationale, nous avons pour habitude de travailler de façon paritaire entre la majorité et l'opposition, ce qui n'est pas le cas au Sénat, et la commission d'enquête menée par Philippe Bas au Sénat ne comporte que des membres de notre opposition, et donc on comprend aisément que notre fonctionnement est complètement différent.
Mais c'est peut-être la raison pour laquelle celle-là continue d'exister et que la vôtre n'existe plus.
Alors,
Parce qu'ils sont tous d'accord, alors que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord avec l'opposition.
Mais parce que justement, nous avions un fonctionnement équilibré entre l'opposition et la majorité. Et effectivement, la recherche du compromis est un petit peu plus compliquée que lorsque l'on est uniquement entre membres de l'opposition.
Quand vous voyez aujourd'hui ce que dit Alexandre Benalla, qui s'est exprimé en des termes très peu diplomatiques à l'égard de la commission du Sénat, il juge la commission illicite, qualifie ses membres de petites gens qui n'ont jamais existé dans le paysage politique français, des petites personnes qui n'ont aucun droit et aucun respect pour la République et la démocratie. Quand vous entendez cela, qu'est-ce que vous vous dites? Que Alexandre Benalla est un personnage totalement incontrôlable?
Alors j'ai été très choquée en fait par ces propos qui ne sont pas à l'honneur de notre démocratie. Chacun conduit sa mission telle qu'il estime devoir la conduire, et je ne pense pas que ces propos honorent la personne qui les a tenus. Maintenant, je me garderai bien d'aller plus loin en la matière.
La ministre de la Justice a présenté hier en Conseil des ministres ce que l'on appelle, peut-être un peu sommairement d'ailleurs, son plan prison. C'est un sujet sur lequel vous avez vous-même beaucoup travaillé. Il s'agit d'un ensemble de mesures destinées à réduire la surpopulation carcérale. Première décision, les peines inférieures à un mois ne donneront plus jamais lieu à incarcération, et pour la plupart, celles inférieures à six mois se feront également selon d'autres modalités. Finalement, ne plus mettre mettre les gens en prison pour libérer des places, pour limiter la surpopulation, est-ce que ça n'est pas un peu la solution de facilité?
Alors non, l'objectif n'est pas de simplement libérer des places, c'est juste d'agir le plus finement possible en fonction de chaque individu. Il est constaté que les peines très courtes ne produisent aucun effet, voire sont contre-productives. Mmh. Ensuite, pour les peines un peu plus longues, il faut qu'on ait le panel le plus étendu de réponses pénale, c'est-à-dire des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire un placement sous bracelet électronique ou une incarcération, mais dans des centres adaptés qui soient vraiment axés vers la réinsertion de la personne qui sera incarcérée.
Pourquoi ce choix de 6 mois pour dire qu'on n'ira plus en prison? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 12? Pourquoi finalement ne pas plutôt déterminer si l'on place ou non en détention en fonction de la dangerosité du prévenu ou du coupable?
Alors, de toute façon, le magistrat, lorsqu'il prononce une peine, a toujours la possibilité de prononcer la peine qu'il souhaite et donc lui apprécie en fonction de la dangerosité de la personne quelle est la peine la plus appropriée. Ouais. Et l'objectif, c'est qu'il ait l'éventail le plus large possible pour prononcer la peine la plus adaptée à chaque individu, et c'est ce qu'offrira ce plan pénitentiaire.
Alors, autre nouveauté, les peines de plus d'un an, celles-là ne connaîtront plus d'aménagement. Alors, pour que ce soit clair, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de réduction de peine, par exemple, plus de bracelet électronique pour toutes les peines d'au moins un an? Parce que, de prime abord, ça paraît paradoxal avec la volonté de désengorger les prisons.
Alors, ce qui est important, c'est que les peines qui soient prononcées par des magistrats de plus d'un an de prison soient effectives, donc effectivement exécuté par ceux qui ont été condamnés. Et c'est un des objectifs du plan. Encore une fois, l'objectif du plan n'est pas de désengorger les prisons. Le désengorgement des prisons sera un effet de ce plan. Mais ça n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'avoir une politique pénale qui soit efficace, qui soit compréhensive et qui marche. Donc qui marche, ça veut dire qui entraîne moins de récidives à terme pour mieux protéger les Français.
Ces mesures devraient, selon la ministre Nicole Belloubet, réduire de 8000 personnes la surpopulation carcérale. Compte tenu des chiffres, il n'y en aurait quasiment plus, en fait, si l'objectif est atteint.
Alors, parce que ce que vous oubliez de dire, c'est que dans le plan, il y a aussi 7000 places qui vont être construites. Donc, on agit vraiment sur les deux volets, un petit peu moins d'incarcération pour les très courtes peines et plus de places de prison pour réduire la surpopulation carcérale. Et c'est sur ces deux leviers qu'on agit et qui permettront d'avoir un plan cohérent.
Il y a une volonté également de développer des nouvelles formes de détention, c'est-à-dire peut-être moins coercitives, avec un peu plus de liberté de mouvement à l'intérieur de l'enceinte. Ce ne sont pas des prisons sans barreaux, mais ce sont des prisons, on va dire, sans cadenas au port.
Alors, à sécurité allégée, c'est ce que nous préconisions. Vous avez rappelé l'important travail que la commission des lois avait mené sur la détention de façon transpartisane avec les Républicains, le Modem et tous les groupes qui sont membres de la commission. Et nous avions rendu un rapport qui préconisait justement la construction d'établissements à sécurité allégée pour les courtes peines ou pour les fins de peine. Et nous préconisions aussi le développement de quartiers dits de confiance dans lesquels les détenus ont un tout petit peu plus de marge de manœuvre en contrepartie du respect très précis de toutes les règles de la détention. Ce sont des choses qui existent d'ores et déjà et qui marchent très bien et qui permettent un climat de détention beaucoup plus apaisé, donc aussi des conditions de travail pour nos surveillants bien meilleures.
Tout le monde s'accorde à dire que ce qui est très important également, c'est de préparer la sortie de prison pour favoriser la réinsertion. À cet égard, il y a une volonté de développer les rapports, les passerelles avec le monde de l'entreprise.
Tout à fait. C'est également quelque chose que nous avons préconisé, c'est qu'il faut mettre à tout prix le paquet sur l'insertion professionnelle à la sortie de prison. Et il y a donc 2 projets de centres pénitentiaires qui vont être faits en partenariat avec des entreprises. Mais le développement de l'activité à l'intérieur de la détention doit être poursuivi pour l'ensemble des centres de détention et pas uniquement dans cela.
Merci Yael Brun-Pivet. Bonne journée.
Merci à vous.